Je lis les pages d'un livre.
Les dieux des petits riens.
Le monde est alors celui de ce livre.
Nabokov.
Le monde est dans le livre.
100 ans de solitude.
Le monde est le livre.
Littérature sans frontières. Sophie Écoué.
Bonjour. Notre invité cette semaine a la particularité d'être un romancier britannique écrivant en français, tout en ayant 3 langues maternelles. Il a étudié à Oxford, puis à la Sorbonne. Avant de publier, il fut longtemps consultant politique au sein de cabinets conseils à Paris, à Londres et à Dubaï. Son premier roman d'espionnage, Musk, avait pour thème la disparition d'une fragrance, un roman sur l'odeur. Moore le mort, le deuxième roman, traite de l'insensibilité au toucher, une trilogie sur les sens que vient compléter ce dernier roman autour de la vue, ou même sur la vue, Le vrai cul du diable, paru chez Cherche Midi. Percy Camp nous propose ici une bien étrange histoire entre 2 personnages très différents. L'une est humaine, Anna Bravo, l'autre est un curieux miroir vénitien du XVIIIe siècle.
Je m'appelle Percy Camp et comme mon nom ne l'indique pas, je suis au moins à moitié libanais. Étant de père anglais et de mère libanaise, mais étant né au Liban et ayant vécu au Liban. J'ai donc grandi dans le français. Et quand j'étais petit, le français était la langue de la valorisation. C'était la langue de l'école, bien sûr. C'était aussi la langue que parlaient les filles qu'on courait, la langue de la bourgeoisie libanaise, contrairement à l'arabe qui était une langue triviale, la langue du personnel de maison ou des boutiquiers ou des chauffeurs de taxi. Et pendant longtemps, cette langue donc a été une langue de pouvoir. L'anglais pour moi était une langue de relation à une Angleterre onirique dont je rêvais mais que je connaissais très mal puisque je n'ai vécu en Angleterre qu'adulte, à l'âge de 18 ans. Auparavant, j'ai toujours vécu au Liban. Donc j'ai grandi dans cette langue qui à l'époque était dominante, comme dans beaucoup de pays francophones, et qui marquait une appartenance de classe. Et j'ai toujours eu des rapports malaisés avec cette langue. Et j'ai donc commencé à m'enfoncer dans l'arabe plutôt, à m'intéresser à la littérature et à la poésie arabe, comme engagement politique, et aussi parce que c'était la langue des classes défavorisées. Puis je suis allé en Angleterre pour étudier et soudain je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin du français. Et paradoxalement, n'ayant pas besoin du français, j'ai commencé à aimer cette langue. Parce que je voyais que ce n'était plus une langue de pouvoir, c'était une langue de luxe, disons, et elle me convenait. Quand j'ai commencé à écrire de la fiction, le choix s'est posé à moi de savoir dans quelle langue j'écrirais. Le dilemme a été vite résolu, dans la mesure où je suis marié à une Moldave qui possède le roumain, le russe et le français, mais pas l'anglais. Et moi j'ai l'anglais, le français et l'arabe, et donc le français est notre langue commune. C'est devenu la langue de mon intimité, et donc à moins de risquer un divorce que je ne souhaitais pas, j'avais intérêt à écrire en français, puisque ma femme est finalement ma première lectrice.
Elle détourna vite son regard de ce miroir et le porta sur la grande glace régence qui trônait à ses côtés. Elle y reconnut alors spontanément son image et en fut rassurée, mais aussi agacée. Rassurée à l'idée de retrouver le visage qu'elle se connaissait, mais agacée à l'idée qu'on cherchât encore et encore à la tromper. Il se rendait compte en effet que, loin d'être un palindrome parfait, son reflet dans cette grande glace-là était un anacyclique surfait. Tel le Richard II de Shakespeare qui venait de perdre son trône et s'étonnait que son miroir ne reflétât pas sa déchéance, elle aurait alors tout aussi bien pu hurler. « Ô miroir flatteur, pareil aux courtisans de ma prospérité, tu me trompes !» Comme lui, elle aurait aussi pu briser ce miroir trompeur en 1000 morceaux. Mais Anna ne faisait pas dans la tragédie. Elle se contenta donc de constater froidement que le reflet que la glace régence lui offrait était aussi tronqué que le son vide de sens qu'un écho lui renverrait.
Percy Camp, nous allons parler des mots avant l'histoire de votre roman, Le vrai cul du diable. Votre plume est délicieuse, vous jouez avec la langue dans un florilège d'expressions, le tout baigné d'humour et le sourire affleure régulièrement et l'air de rien au détour d'une phrase on rit. Mais, parce qu'il y a un mais, on consulte régulièrement le dictionnaire pour comprendre par exemple l'otaryngie, dactylique. Comment arrivent ces mots difficiles ?
J'essaye dans la mesure du possible de faire de sorte à ce que mon écriture reflète le personnage principal que je suis en train de décrire. Si ce personnage-là est particulièrement précis, s'il est maladivement perfectionniste, j'essaye d'user d'une langue qui ramène au personnage.
C'est le cas d'Anna.
C'est le cas de ce personnage-là, effectivement.
Oui. Anna Bravo, qui est cette femme de 39 ans, passionnée d'art, obsédée par l'ordre et la symétrie. Elle est le bras droit du ministre de l'Intérieur, que vous avez prénommé Noël, à qui elle voue d'ailleurs toute son âme. Elle est dévouée à cet homme. Elle mène une vie assez ordinaire, une vie assez triste. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce vernissage, où elle reprend, là je vais reprendre une phrase d'elle, elle dit « Qu'est-ce que cette diablerie ? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ?»
Cette diablerie, c'est un miroir. Au Moyen-Âge, c'est une expression qu'on utilisait pour nommer le miroir. Essentiellement pour éloigner les gens du miroir et donc des actes de vanité et les pousser à ne pas se contempler eux-mêmes mais à contempler la création divine.
Anna avait 12 ans quand sa grand-mère la surprit un soir devant un miroir, outrageusement maquillée et flottant dans une robe et des souliers ayant appartenu à sa mère. Cette vieille femme, austère et profondément dévote, l'avait alors vertement tensée, puis longuement sermonnée sur les méfaits du miroir qui détournaient, à l'en croire, les hommes de Dieu. Et en flattant leur vanité, les menait sur les chemins de la perdition. Le miroir lui avait-elle lancé et le vrai cul du diable. Comme pour appuyer ses dires, elle l'avait ensuite saisi par le bras et traîné jusqu'à sa chambre. Là, ouvrant un grand livre qu'elle avait pris sur une étagère, elle lui avait fourré le nez dans une gravure représentant une jeune fille admirant sa belle chevelure dans une glace, tandis que derrière elle, un démon lui faisait une horrible grimace en lui tendant son derrière, lequel se reflétait dans le miroir qu'elle tenait à la main. Anna avait été terrifiée. Le vrai cul du diable l'avait à nouveau averti sa grand-mère.
Donc la diablerie que Anna trouve dans cette galerie, c'est un miroir, mais ce n'est pas n'importe quel miroir. Parce que comme on le sait, les miroirs inversent l'image qu'on leur donne. Quand je me regarde dans le miroir, je ne me vois pas tel que je suis, je me vois à l'envers. La gauche et la droite et vice-versa. Or, ce miroir est fait de telle manière qu'il n'inverse pas l'image. Ce qui fait que quand on s'y regarde, on se voit non pas comme on se verrait quand on se regarde le matin dans la glace de sa salle de bain, en se réveillant, mais on se voit littéralement comme les autres nous voient. Et pour Anna, le choc est trop grand de voir qu'il y a un décalage entre la perception qu'elle avait d'elle-même et la perception que les autres ont d'elle, essentiellement parce que c'est une perfectionniste, c'est une femme très carrée, c'est une femme de pouvoir, et c'est une femme qui cherche à tout prix l'adéquation avec autrui.
Alors tout d'abord, elle achète ce miroir, fascinée par l'image de cette femme qu'elle ne reconnaît pas, puisque Anna ne se reconnaît pas dans ce miroir. Et ce miroir va transformer sa vie parce qu'elle sera obsédée pour trouver ce qui se cache justement dans ce miroir. Elle va démonter ce miroir, mais en fait, elle ne fait que creuser presque, j'allais dire...
Sa propre tombe.
Oui, ouais. Sa tombe.
Effectivement. Je dois dire que j'ai écrit des romans qui sont partis d'une idée. Mais j'ai aussi écrit des romans, trois romans, celui-ci est le troisième, qui parle d'une sensation, mais d'une vraie sensation physique. Je ne dis pas d'un sentiment, encore moins d'une idée, mais vraiment d'une sensation physique. Et ce miroir n'est pas le fruit de mon imagination. Il existe. Je l'ai malheureusement acheté et pour mon malheur, je me suis miré. Et quand je me suis vu dans ce miroir, j'ai eu un choc tel que je l'ai mis dans un placard pendant 3 ans. Et je n'ai plus ouvert le placard. Et puis après, le temps passant, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'écrive quelque chose. Ne serait-ce que pour moi-même surmonter cette aversion que j'ai eue pour ma propre image si peu familière. Et donc, c'est un miroir qui existe vraiment, et j'ai essayé un peu de décrire dans ce livre ce que moi j'ai ressenti quand j'ai été face à un tel miroir.
Anna, ce serait vous, comme ce serait écrié Flaubert?
En tout cas, je me suis écrié, qu'est-ce que c'est cette diablerie quand j'ai vu ça? Parce que c'est vraiment un miroir qui nous met face à l'altérité, qui nous laisse pas une intimité, qui nous laisse aucune illusion sur nous-mêmes, en fait.
Que faire d'autre quand l'un de nos sens, qu'on pensait rationnel et auquel on s'était, façon de parler, fié les yeux fermés, s'avérait avoir été vampirisé par notre affect? Quand il n'obéissait plus à notre raison, mais se laissait mener par le bout du nez par nos émotions. Que faire d'autre de raisonnable sinon l'amputer pour l'empêcher de tout contaminer?
Percy Kemp, votre narratrice Anna a une fascination pour son image qui tourne à l'obsession, un reflet de soi qui prend la première place, qui supplante tout, qui supplante même la réalité, la déforme et qui va la dévorer.
Oui, vous avez tout à fait raison de soulever ce point. Et c'est à mon sens un peu ce qui se passe dans la société en général aujourd'hui. C'est-à-dire que la réalité existe de moins en moins et nous vivons de plus en plus dans une virtualité. Et comme vous le savez, il n'y a pas de virtualité sans image. Tout notre rapport au monde extérieur passe par l'image. D'abord l'image que nous voulons donner de nous-mêmes, mais tout nous est donné par l'image. Et c'est l'image qui crée la réalité maintenant.
Est-ce qu'on peut dire la fin, Percy Kemp?
Vous pouvez...
Est-ce que c'est pour cela que justement Anna va finir un peu, pour moi, à mon sens, tragiquement, ce qui n'est pas le cas du romancier, parce que les dernières pages de votre livre sont une sorte de, pas d'apologie à la non-voyance, mais en tout cas, ce que la vue ne nous apporte pas, ou ce que la cécité peut apporter.
Oui.
C'est des très très belles pages sur ce qu'il y a au-dedans de nous, sans la vue.
Oui, il est vrai que c'est une question d'ego, à mon sens. C'est-à-dire que notre ego se nourrit essentiellement de biens. Plus nous possédons des choses, et je ne parle pas seulement de choses matérielles, mais plus nous avons de la connaissance, plus nous avons des livres, mais aussi des choses matérielles, et plus notre ego s'épaissit. Et la non-voyance est, à mon sens, une sorte de libération de l'ego.
Anna craignait maintenant son reflet comme d'autres le vide. Or, qui dit peur dit aussi attrait. Et le fait est qu'Anna était tout aussi attirée par son reflet qu'elle le craignait. Le danger était là. Il était dans la tentation.
D'une certaine manière, pour quelqu'un comme Anna, qui est dans la rationalité la plus totale, l'idée qu'elle puisse être mue par ses émotions est plus qu'elle ne peut en supporter. Et il est vrai que, bon, à un moment donné, je crois que je cite le King Lear de Shakespeare,
ou
Gloucester dit,
oui,
qu'avais-je à faire de mes yeux? Souvent, ce qu'on pense être une faculté nous dessert, et ce dont on est privé tourne à notre avantage.
Je n'ai nul besoin d'yeux, car j'ai trébuché quand j'y voyais.
Voilà. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous.
Oui, et c'est le cas de Noël, qui justement est ce personnage assez truculent, qui amène beaucoup d'humour dans ce livre, parce que c'est vrai que la vie d'Anna, c'est quand même une vie de misère, j'allais dire, enfin de misère, vu de mon point de vue, mais même si elle nous apprend énormément de choses, on est triste pour Anna, on aimerait bien que sa vie rebondisse, etc. Et puis il y a Noël, qui est là, qui ne se pose aucune question, qui est sûr de lui, et il a réponse à tout, ministre, va devenir président bientôt, et il a plein de formules et plein d'idées précises sur la vie, et même des théorèmes. Hein. J'aime beaucoup ce lien de Noël, parce que Noël n'est pas là par hasard, en fait.
Non, parce que c'est un tandem, en fait. L'un rehausse l'autre, et vice-versa, effectivement. comme Sherlock Holmes et le Dr. Watson. Et
l'ombre et la lumière.
Voilà, oui, voilà, enfin, ou comme la vie et la mort, comme tout, enfin, tout est lié, il n'y a pas de contradiction entre les deux.
Et même quand Anna affaiblit, tressaillit, Noël va quand même utiliser son handicap. Lui, il n'a peur de rien.
Lui, c'est une machine de guerre. Comme vous disiez, il ne se pose pas de questions, il n'a pas d'état d'âme. Contrairement à elle, parce qu'elle, apparemment, son perfectionnisme était... Elle se faisait violence, finalement. Et lui, par contre, n'a aucun état d'âme et sait ce que peut-être chacun de nous devrait savoir, c'est que dans la vie, il n'y a rien d'intrinsèquement bon ou mauvais. C'est ce qu'on en fait qui en fait que c'est quelque chose qui devient bon ou mauvais. Donc... il prend l'existant et il essaye, dans sa perspective, d'en tirer le meilleur profit.
Je me dis que le vrai cul du diable, c'est un prétexte, Percy Crump, pour... parce que ce livre aurait pu ne pas être un roman, ça aurait pu être juste un précis philosophique.
Là, il y a peut-être effectivement, de ma part, une certaine imposture. C'est-à-dire que c'est un roman, et c'est mon sixième roman, mais néanmoins, je ne me définis pas comme un romancier, moi-même. C'est-à-dire que mon but n'a jamais été de distraire, ni de faire de belles phrases, ni d'essayer de faire de belles phrases, disons. J'écris d'abord, ou je continue à écrire, si je pense qu'un livre me change moi-même. C'est-à-dire, je pense qu'un livre est réussi pour moi, si, l'ayant terminé, je me sens un petit peu meilleur homme que je l'étais avant de l'avoir commencé. Peut-être qu'il y a une imposture dans le sens où un essai sur le même sujet pourrait toucher peut-être 1000 personnes, alors qu'un roman peut en toucher peut-être 5, 10 ou 15 ou 20 ou 30 fois plus. Et effectivement, ça m'intéresse de toucher les gens si j'estime que un roman m'a apporté quelque chose en l'écrivant. J'espère que ça peut apporter quelque chose à ceux qui pourraient le lire.
Au Kremlin, semblait-il, un chef au chef dégarni succédait immanquablement à un chef au chef chevelu. Ainsi, à Nicolas II le chevelu avait succédé Lénine le dégarni, à Lénine, Staline le chevelu, et à Staline, Khrouchtchev le dégarni. À Khrouchtchev, Brejnev le chevelu, et à Brejnev, Andropov le dégarni, à Andropov, Tchernenko le chevelu, et à Tchernenko, Gorbatchev le dégarni, à Gorbatchev, Eltsine le chevelu, et à Eltsine, Poutine le dégarni, et à Poutine, Medvedev le chevelu.
Votre roman Percy Crump prend des accents bibliques, parfois, et sur la fin, surtout, les masques vont tomber, on n'est plus dans la raison, mais dans les émotions, on est mal à l'aise face au sort fait à Anna. Et si c'était finalement un livre sur les malaises, Percy Crump ?
Sur les malaises, effectivement. Sur les malaises. Et heureusement qu'il y a les malaises, parce que les malaises sont ceux qui nous sortent de nos habitudes, finalement. Et nous sommes tellement des créatures d'habitude. Et le moindre changement nous perturbe profondément, nous déconstruit. Et comment s'étonner après ça qu'on ait une telle peur, par exemple, de l'inconnu que représente la mort ? Si on a peur de perdre son boulot, ou de perdre son parfum, comme le personnage de mon premier roman, ou... de ne plus avoir son tailleur traditionnel ou le coiffeur qui meurt. Ou... Nous sommes finalement des êtres d'habitude et il n'y a pas pire que les habitudes parce que c'est comme ça que l'ego s'épaissit et il finit par faire obstacle à la vie.
Je vous en voulais, après avoir refermé ce livre, parce que je me dis, vous m'avez dérangé dans mes habitudes, vous m'avez dérangé dans mes certitudes, vous m'avez dérangé sur ma perception des choses.
Je suis ravi.
Merci beaucoup,
Percy. Merci à vous de m'avoir reçu.
Le vrai cul du diable de notre invité Percy Crump paraît en France. Au Cherche au Midi, c'est Camille Geoffrey qui a préparé, réalisé ce magazine qui se referme, mis en onde aujourd'hui par Thomas Ferrière. Merci à notre stagiaire Siyama Saini, à qui on souhaite bon vent. À vous tous qui nous écoutez, bonne lecture. Restez à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. On se retrouve la semaine prochaine et portez-vous bien.